Et on a hâte de la voir. Le parcours s'achève bientôt. Bonjour Lucie. Bonjour Nicole. Un rebonjour Nicole. Ton nom réapparaît une deuxième fois, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Farley. Bonjour Marie-André. Donc, on va prier et après ça, on débute l'enseignement d'aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te bénissons pour cette nouvelle semaine, pour ce premier jour de bénédiction matinale pour cette semaine. Nous te demandons Seigneur, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les journées qui vont suivre, que tu ouvres notre entendement, que tu nous permettes de saisir ta parole et que tu nous permettes de grandir en elle. On veut s'abreuver à ta parole, on veut se nourrir à ta parole, on veut être planté auprès de ta parole afin, Seigneur, de croître à tout égard devant toi et d'être trouvé agréable sous ton regard, ô Dieu. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère aujourd'hui, mais cette semaine aussi, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors, c'est toujours le même passage, le verset 10, par contre, qu'on étudie cette semaine. Donc, je vais relire pour vous, malgré tout, du verset 8 au verset 10, dans Lévitique au chapitre 25. Donc, Lévitique 25, le verset 8, 9 et 10, et je répéterai en toute fin le verset 10 encore. Tu compteras 7 années de sabbat, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats, d'années feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette du jubilé. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette du jubilé dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa famille. Et je répète le verset 10, donc. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vais juste agrandir un peu mon écran. Voilà. Alors, cette semaine, la thématique pour nous, c'est le jubilé et un retour à la liberté. Après avoir parlé de la proclamation du jubilé la semaine dernière, en se basant sur le verset 7, cette semaine, donc, on reprend les grands thèmes de la prédication d'hier et on va faire le lien entre le jubilé et la liberté. Et aujourd'hui, la première section de phrase qu'on reprend, c'est cette phrase qui dit « Vous sanctifierez la 50e année, ce sera pour vous le jubilé. » Donc, sanctifier l'année du jubilé. Sanctifier, ça veut dire rendre saint, considérer comme étant saint, considérer comme étant sacré. Lorsqu'on parle du terme « sanctifier », pour le terme jubilé, vous l'avez déjà étudié la semaine dernière, je vous le répète, le jubilé c'est le yobel, Y-O-B-E-L, Y-O-B-E-L, qui parle d'un bélier, qui parle de la corne d'un bélier, qui parle de la trompette, et ça c'est associé au fait que lorsque le jubilé commençait, il y avait des trompettes qui retentissaient à son départ, à son démarrage, et c'était des trompettes qu'on ne jouait qu'à l'occasion du jubilé, donc aux 50 ans, on ressortait ces trompettes spécifiquement utilisées pour le jubilé. Pas qu'elles aient une forme différente, pas qu'elles aient une constitution différente, c'est simplement qu'on savait que ces trompettes-là, ces cornes-là, avaient été jouées au jubilé et ne devaient être jouées que lors du jubilé. Donc, c'est voilà pourquoi le jubilé, en fait, est associé tant au mot « trompette » qu'au mot « corne de bélier » qui était le matériel principal dans lequel était forgé ces trompettes. Et le terme sanctifié, important pour nous aujourd'hui, Kadash, donc Q-A-D-A-S-H. Je prends le temps pour épeler comme ça, parce que je sais que vous êtes nombreux à prendre des notes et à réviser par la suite durant la semaine, ce que j'apprécie beaucoup et puis ce que j'encourage aussi. La Bible nous dit que l'église de Béris, c'est ce qu'ils faisaient. Ils recevaient un enseignement, puis ils rentraient à la maison et ils étudiaient pour voir ce que Paul leur avait enseigné, si c'était vrai ou faux, et pour le comparer avec les Écritures. Donc, il est bon que vous preniez aussi cette habitude de faire la même chose avec ce que je vous enseigne. Donc, sanctifié, Kadash, donc Q-A-D-A-S-H, qui veut dire consacrer. Consacrer une chose, consacrer une personne, consacrer un laps de temps à une chose, se dédier à une cause, séparer, mettre cette période, cette personne, cette fonction, cet objet comme étant séparé de tout le restant, un peu comme la trompette du Jubilé, qui était, oui, une trompette normale comme toutes les autres trompettes, mais parce qu'elle servait pour le jubilé, elle était mise à part pour cette fonction, pour cette année-là de célébration du jubilé, et sacralisée, qui est un terme probablement un peu plus religieux, probablement aussi un peu plus liturgique dans son approche, surtout avec l'Église traditionnelle du côté de l'Église évangélique ou l'Église protestante, on a moins de ce qu'on appelle des sacralisations, donc de rendre quelque chose de sacré, même si la Bible nous enseigne qu'il y a des choses qui sont sacrées. Le mariage est sacré, la conversion est sacrée, le repas du Seigneur est sacré, le baptême est sacré. Donc, il y a ce genre de cérémonies-là qui sont importantes dans le cours de l'existence d'un croyant. Et donc, sacraliser l'année du jubilé, la rendre sainte et la considérer comme sacrée aux yeux de Dieu. Voilà ce que ça voulait dire. Donc, le jubilé, la journée du jubilé, l'année du jubilé et son message. Donc, non seulement ce qu'était cette journée-là et ce qu'était cette année du jubilé, mais de surcroît à cela, ce que ça véhiculait comme message pour le peuple juif, ça devait être considéré comme sacré. Donc, ça devait être considéré comme quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Assurément, tout ce qui vient de Dieu devrait être considéré par nous tous comme étant important. Mais il y a comme certaines choses, certaines pratiques, les fêtes juives dans l'époque de l'Ancien Testament étaient des choses importantes. Et lorsqu'on revient au jubilé, on se rend compte que cette célébration-là n'arrive qu'une fois en 50 ans. Alors, si quelqu'un vit autour de 100 ans, il a peut-être la possibilité de vivre la chose deux fois, mais régulièrement, une bonne partie du peuple n'aurait eu à vivre le jubilé qu'une seule fois. Donc, c'est quelque chose d'important, non seulement dans l'individu, c'est quelque chose d'important, marqué avec tout le côté précieux de la chose pour l'ensemble du calendrier du peuple juif. Alors nous aussi, cette année, on va essayer de voir pourquoi l'année du jubilé est une année mise à part, est une année exceptionnelle. Elle est une année d'exception qui mérite non seulement notre dévouement, notre consécration, notre capacité à distinguer son côté exceptionnel, mais aussi notre capacité à lui accorder tout le sacrement, si vous me permettez, sans tomber dans la religiosité, mais tout lui accorder l'importance qui se doit. Alors voyons pourquoi le jubilé au niveau juif était une année unique, et on va faire le lien aussi, qu'est-ce que ça représente pour nous. Premièrement, c'était une année unique par son message. Lorsqu'on relit ce verset, on nous dit « Vous considérerez l'année du jubilé comme étant une année à sanctifier, une année qui est sainte, et vous publierez la liberté sur l'ensemble du pays et pour tous ses habitants. » Le message était important. Le message parlait de la liberté que Dieu obligeait, que Dieu octroyait de par ses lois au peuple d'Israël et à l'ensemble des habitants du territoire. J'expliquais hier que très souvent, lorsqu'on regarde la condition de l'humain, on se méprend sur notre propre condition. Certains d'entre nous, oui, on sait qu'on est condamnable parce qu'on est pécheur, parce que de par notre nature pécheresse, on sait qu'on est condamnable, mais on dirait qu'on vit dans une espèce de sursis et que la condamnation n'arrive que lors de notre mort. Soyons très, très clairs. La condamnation sur ta vie, elle est là depuis ta naissance. À partir du moment où le péché d'Adam et Ève a été commis, non seulement sur eux la condamnation est tombée, mais cette condamnation s'est transmise dans l'ADN même humaine, génération après génération, jusqu'à présent. Ça veut donc dire que toi, en naissant, tu es déjà condamné de par ta nature pécheresse. Donc, ce n'est pas comme si tu attendais un jugement. Le jugement est déjà là. Et voilà l'erreur très souvent qu'on fait, où on se dit « Dieu nous attend juste pour nous juger ». Nos péchés nous ont déjà jugés. Notre condition inique, notre condition pécheresse nous a déjà jugés. Ça, c'est déjà un fait, c'est déjà acquis, c'est déjà accompli. On attend juste de servir notre sentence pour l'éternité. Mais avant qu'on ne serve notre sentence, voici ce qui s'offre à toi. Dieu, pendant ton vivant, Dieu, pendant que tu passes du temps ici-bas sur terre, il t'offre la possibilité de court-circuiter cette condamnation et de bénéficier de la grâce, du pardon, du salut et de la vie éternelle. Dieu n'a aucun désir de voir l'homme aller en enfer. En fait, la Bible nous dit que l'enfer a été créé tout d'abord pour le diable et pour ses acolytes. Donc, pour le diable qui s'est rebellé contre Dieu et pour ses démons, ses anges déchus qui l'ont suivi dans sa rébellion. Le plan de Dieu n'était ni que toi, ni que moi, ni qu'aucun être humain n'aille en enfer. Mais c'est notre acceptation du péché, c'est notre participation à la nature même pécheresse qui nous envoie là. Mais depuis toujours, Dieu avait prévu cela et avait planifié, pensé, préparé un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc Dieu ne veut pas te perdre, Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, Dieu veut que tu sois sauvé. Alors cette même liberté qui était prévue, lorsque les gens devenaient esclaves, lorsque les gens se vendaient à un maître parce que n'ayant plus de quoi vendre comme propriété, au début ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs maisons, et quand cela ne suffisait pas, ils allaient jusqu'à vendre leur personne, leur famille, pour devenir esclaves d'un maître. Et ils savaient que cette période-là d'esclavage allait durer jusqu'au prochain jubilé. Ça veut dire que dès que tu devenais esclave, dans la pensée et dans la tradition juive, ce n'était pas un état fini pour toute ta vie. Ce n'était pas comme on a vu plus tard dans les sociétés occidentales telles que la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait aussi à sa proportion, on va dire, mais principalement ce qu'on appelait le commerce triangulaire, donc principalement avec l'Angleterre, la France, les Antilles et les États-Unis. Donc on se rappelle que ces trois grandes puissances ont été les faiseurs principaux de l'esclavage le plus contemporain qu'on connaisse, étatisé et tout cela. Et eux, lorsque tu devenais esclave, tu l'étais pour le restant de ta vie, à moins que ton maître décide éventuellement, à ta grande surprise, d'avoir cette grandeur d'esprit, si on peut parler ça, de grandeur d'esprit, de te libérer, de t'affranchir, tu restais esclave pour le restant de ta vie. Mais lorsque tu devenais esclave dans la tradition juive, tu savais qu'il y avait une date de péremption, tu savais qu'il y avait un salut, qu'il y avait une liberté, qu'il y avait un affranchissement qui t'était accordé, et cet affranchissement arrivait à la 50e année, non pas de ta vie, mais à la 50e année du cycle juif. Ça voulait dire que tu pouvais être peut-être esclave tout simplement un an. Si tu devenais esclave à la 49e année, tu avais juste cette année-là écoulée. L'année d'après, tu étais libéré. Le plus dur, c'était si tu devenais esclave à la première année. Alors, tu savais que tu avais au moins 49 ans pour écouler ta peine. Mais ce qui était arrêté, c'est qu'il y avait de façon cyclique des occasions de salut. Pour toi aussi, il y a de façon régulière et cyclique des occasions de salut tout au long de ta vie. Et le cycle de ces occasions de salut pour toi, c'est à chaque jour. Dieu t'offre cette même possibilité. Au même titre où Dieu avait édicté la loi qui permettait qu'à la 50e année, on parvienne à la rédemption et qu'on parvienne à l'affranchissement et à la liberté, Dieu a aussi prévu que jour après jour, alors que le message de son évangile est prononcé, tu puisses parvenir à l'affranchissement de ta culpabilité, à la grâce de ta condamnation, à l'affranchissement de ton esclavage, à travers sa décision et son offre à lui. Alors voilà pourquoi cette année était unique au niveau du jubilé, à cause du message de la liberté divine. Et pour nous, c'est aussi quelque chose de sacré, parce que nous annonçons la liberté du péché, la liberté de la condamnation et la liberté de la culpabilité du pécheur en raison de la mort, de la résurrection et du salut disponible en Jésus. Une année unique aussi par l'œuvre à accomplir, qui était de libérer le captif. La trompette sonnait et tous les propriétaires juifs savaient qu'ils devaient libérer leurs esclaves, qu'ils devaient libérer de leurs dettes tous leurs débiteurs, qu'ils devaient offrir à tous le rachat de leurs dettes, le rachat de leur culpabilité. C'était quelque chose d'important. Ça voulait dire que tu allais voir ton frère en lui disant, « Mon frère, je sais que tu travailles pour moi parce que tu me dois X nombre d'écus, X nombre de talents, X nombre de montants d'argent. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, la trompette vient de sonner. Tu es libéré de cette dette. » Et effectivement, la personne repartait libre. Mieux encore, la personne qui avait vendu son lopin de terre retournait à son lopin de terre. Celui qui l'avait acheté savait qu'il l'avait acheté jusqu'à la date du jubilé. Donc celui qui t'avait dépanné en achetant ta terre que tu vendais parce que tu ne pouvais plus subvenir à tes besoins, il savait qu'il devait te rétrocéder cette terre qui t'avait jadis appartenu. Ça veut dire que le propriétaire terrien allait voir les gens qui lui avaient vendu les terrains et leur disait à tous et chacun, « La trompette a sonné, à partir d'aujourd'hui, je vous rends votre territoire, je vous rends votre terrain, je vous rends votre terre. » Donc, c'était une année unique en raison du travail, de l'œuvre à accomplir qui libérait le peuple des entraves et le peuple de son asservissement. Et pour nous, c'est aussi une année importante et un message important, et c'est aussi une œuvre importante. Pensez un peu, lorsque vous parlez de Jésus, lorsque vous témoignez de la mort et de la résurrection de Jésus, vous êtes en train d'annoncer aux gens la seule voie de salut. Donc, vous êtes en train de servir à la libération d'un captif. Je suppose que lorsque quelqu'un est emprisonné, prenons pour le cas de ces prisonniers militaires à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, à l'époque de la guerre au Vietnam, et on voit parfois de ces films où une prison militaire est attaquée par le pays adversaire pour essayer de libérer ces soldats qui ont été faits captifs. Je vois, j'ai dans ma tête certaines scènes lorsque les gens ont été libérés des camps de concentration de l'Allemagne nazie et ils ont été libérés. Ils voient les chars d'assaut américains ou des alliés qui viennent les libérer dans des villes qui étaient captives. Et la grande jubilation, l'acclamation qui vient à leur égard pour avoir libéré ces captifs. Alors j'imagine quelle est aussi la réaction de ces gens qui comprennent l'œuvre que l'on fait à les libérer. Et la Bible nous dit, et j'en ai parlé hier et j'en ai parlé la semaine dernière, il y a une grande joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent. Lorsqu'un pécheur se repent, il passe de la captivité à la liberté. On est en train de faire l'œuvre la plus importante qui soit donnée à un homme. L'œuvre la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, c'est Jésus qui meurt comme agneau de Dieu pour le salut de l'humanité. La deuxième œuvre la plus importante qui se fasse dans l'histoire de l'humanité, c'est lorsque toi et moi et l'ensemble de nos frères dans la foi, on se lève et on parle de Jésus et on amène un pécheur à se repentir et à se tourner vers le Seigneur. Donc cette œuvre-là, cette proclamation du jubilé, elle est sacrée parce que l'œuvre en soi qu'on accomplit est si importante et si primordiale. On libère, on travaille, on contribue à la libération du captif. L'année du jubilé était une année unique aussi de par le commanditaire de l'œuvre. Rappelons-nous ici, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit à son peuple, à Aaron, à Moïse et à l'ensemble du peuple d'Israël, « Et vous sanctifierez la 50e année. » Ça veut donc dire que Dieu dit à ses enfants, « Vous ferez en sorte que cette 50e année et l'œuvre qu'elle représente et ce qu'il s'y accomplit soient saints. » C'était donc un mandat divin. J'ai toujours beaucoup de problèmes avec un des personnages bibliques qu'on appelle Jonas. Vous savez tous, et on est tous passés par là, lorsque on prie pour avoir une réponse de la part de Dieu, puis il semble que la réponse tarde. Lorsqu'on lit le livre de Jonas, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre de la vie de Jonas. La Bible ne nous dit pas qu'il est en train de prier. La Bible ne nous dit pas qu'il est en train de chercher la face de Dieu. La Bible nous dit que Dieu se présente devant lui et qu'il lui dit « Va à Ninive et va prêcher » comme quoi « Je les appelle à la repentance parce que je vais détruire la ville. » Jonas n'a rien demandé. Dieu s'est présenté et lui a parlé. Si j'avais, en tout cas j'ose croire que si j'avais été à la place de Jonas, Dieu se présente devant moi puis il me parle. Je vous ai déjà dit, moi, des fois, je sens la présence de Dieu et la seule chose que j'ai envie, c'est de me ratatiner en petites boules par terre puis de me contrir au sol tout simplement parce que je me sais indigne d'être dans la présence de Dieu. Jonas, qu'est-ce qu'il fait à la place? Il fait ni de un ni de deux. Il prend son baluchon et il part en direction inverse. Il répond même pas à Dieu. Il s'en va en direction inverse. Je me dis, mais si je pouvais parler à Jonas à cette époque-là, je lui dis, mais John, je l'appellerais Johnny. Il dit, mais Johnny, tu comprends pas là? C'est Dieu qui vient de te parler? C'est le créateur de l'univers qui vient te dire, il a même pas besoin de toi, mais il vient te dire, va à Ninive et va leur annoncer que s'ils ne se repentent pas, je vais détruire la ville. Tu as l'occasion de changer le cours de l'histoire de la plus grande ville de l'époque. Dieu te demande de le servir. Dieu te donne un mandat et toi, tu files. Tu te faufiles, tu te files, tu files à la va-vite dans une direction opposée. J'arrive pas à te comprendre, Jonas. Mais regardons, Dieu nous demande à nous d'aller faire la même chose. Dieu nous dit à tous, regardez, la condamnation est déjà mise sur leur tête. La condamnation est déjà tombée. Le couperet est déjà tombé. Mais je leur donne encore l'occasion d'être sauvés. Est-ce que tu ne vas pas saisir l'opportunité de servir le plus grand des plus grands Est-ce que tu ne vas pas prendre l'occasion, saisir l'occasion de servir à la plus grande et la plus merveilleuse des causes qui soit, la seule cause qui va subsister jusque dans l'éternité? Il y a un tas de causes qui sont nobles. Aujourd'hui, on fête la journée internationale des femmes. Et on sait qu'au Québec, à travers les derniers mois, depuis le début de l'année, il y a 5 fémicides depuis, qui sont survenus, donc des meurtres envers les femmes qui sont survenus depuis le début de l'année. Et c'est un taux qui avoisine ce qui se fait pratiquement en un an au Québec. Donc on se dit, ça n'a pas de sens qu'en 2 mois, il se soit passé autant de drames comme cela. Donc aujourd'hui, on pourrait se lever effectivement, souligner l'apport des dames, appuyer l'effort des femmes et appuyer l'équité, appuyer l'égalité entre les hommes et les femmes dans les chances et dans les poursuites de carrière et autres. On pourrait faire ça. On pourrait effectivement, aujourd'hui s'ouvre un procès important aux États-Unis où vous rappelez cet homme noir qui se fait arrêter et puis il meurt sous le genou d'un policier blanc. Aujourd'hui, il y a un procès qui commence à ce niveau-là. On pourrait effectivement se lever pour manifester pour cette cause. On pourrait se lever pour certains pays qui sont aux prises de dictature et dire bon, on va manifester pour la libération de tel peuple ou de tel peuple, se lever pour la libération de tel groupe ou tel autre groupe. On pourrait manifester, mais il n'y a aucune de ces manifestations, il n'y a aucune de ces causes qui durent dans l'éternité. La seule cause qui perdure jusque dans l'éternité, c'est le salut du pécheur. Et tu es appelé, tu es mandaté, on te donne l'occasion de servir. Et c'est Dieu qui te donne cette occasion de te mettre en action pour la plus merveilleuse et la plus importante des causes. Alors oui, cette année est unique dans ce qu'on appelle l'année du jubilé, parce que c'est un mandat que nous recevons de la part de Dieu en tant que peuple juif pour proclamer la libération de tous nos concitoyens. Mais pour nous, en tant que croyants, lorsqu'on fait le lien entre le jubilé et le jubilé parfait qu'est la mort et la résurrection de Jésus et le salut par la grâce, nous devons savoir que cette évangélisation, ce prosélytisme, comme je l'ai mentionné hier, est partie intégrale de la foi chrétienne. Un mandat qui t'a été donné à toi, qui m'a été donné à moi. Ce n'est pas simplement les évangélistes qui doivent évangéliser, mais chacun d'entre nous faisons l'œuvre d'un évangéliste parce que nous avons été mandatés pour proclamer le salut à travers la mort, la résurrection et la grâce de Jésus. Enfin, et je terminerai là-dessus, l'année du jubilé était sacrée parce qu'elle émanait d'une décision de Dieu. Elle émanait d'une loi établie de Dieu. Elle émanait de quelque chose qui avait été pensé, planifié, organisé par Dieu. Et sachant que c'était Dieu qui était l'instigateur, et sachant que c'était Dieu qui était l'acteur principal de cette loi-là, cette année-là était unique. Lorsqu'on parle de l'Évangile, là où on vient jusqu'à surpasser même la question de l'année du jubilé, c'est en sachant quel a été le coût qui a été payé pour la libération du captif. Quel a été le coût payé pour le rachat du pécheur? Quel a été le coût qui a été payé pour ton rachat, pour mon rachat, pour le pardon de tes fautes et le pardon de mes fautes? N'oublions pas que tout cela a été rendu possible par la mort du Sauveur, par la mort de notre Seigneur. Et juste cette pensée devrait nous faire saisir combien ce message est saint, combien ce message est sacré. On parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, qui se fait homme, qui vient marcher ici-bas sur terre, qui ne commet aucune faute, qui n'a aucune faille, qu'on ne peut accuser de rien et qui injustement, de façon trompeuse, va se faire accuser, va se faire maltraiter, va se faire arrêter, va se faire martyriser, va se faire clouer à la croix et va aller jusqu'à mourir à cause de toi, à cause de moi. Je ramène ça strictement à moi, j'espère que tu es capable de le faire. Quand je pense que mon Sauveur est mort à cause de moi, est-ce que vous pensez que je ne peux pas, que je peux parler de l'Évangile ou je peux me taire même? Est-ce que je peux parler de l'Évangile sans passion? Est-ce que je peux parler de l'Évangile sans comprendre que je dois continuer, continuer, continuer? Est-ce que vous comprenez que lorsque je réalise que Jésus est mort pour moi, je ne peux plus me taire? Lorsque je réalise ce qu'il a fait pour moi, je ne peux plus me taire. Et là, on vient dans un point important, et je vais juste m'arrêter quelques minutes là-dessus. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. La foi, c'est ça. C'est de croire qu'effectivement, ce que ce livre qu'on appelle la Bible nous dit est vrai. Et que ce qu'elle nous dit de ce Dieu est effectivement vrai. Mais si c'est vrai, si tu proclames qu'effectivement le Dieu de la Bible est le seul et l'unique comme il dit qu'il est, et que ce qu'il dit qu'il a fait, c'est effectivement passé, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne vis pas pleinement pour Jésus? Je vous oublie, je ramène ça à moi. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi régulièrement je ne vis pas pleinement pour Jésus. Je ne peux pas m'expliquer, lorsque je pense à la mort de Jésus pour moi, pourquoi je ne donne pas tout ce que j'ai pour lui. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi je m'économiserai. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi je ne vivrai pas chacune des secondes que j'ai actuellement ou qui me resterait à vivre de façon passionnée pour Jésus. Je parle de celui qui est mort pour moi. Je parle de celui qui, pour moi, qui était condamné et qui était déjà enchaîné pour le restant de l'éternité, il m'a rendu libre. Le bagnard que je parlais hier, un peu comme dans Les Misérables avec Jean Valjean, qui se fait dire par son geôlier Javert à l'égard de Jean Valjean, qui se fait dire « Valjean, tu es libre ». Jésus ne m'a pas dit « Giacomin, tu es libre ». Jésus m'a dit « Mon fils, je t'ai assez aimé pour te sauver, te rendre libre ». Et Jésus te dit la même chose. « Mon fils, ma fille, je t'ai assez aimé pour mourir pour toi à la croix ». Alors ça, soit tu le crois pleinement, totalement, ou soit tu n'y crois pas. Tu ne peux pas y croire simplement à moitié. Et si c'est vrai, et si tu crois qu'il a effectivement donné sa vie pour toi, tu ne peux pas vivre à moitié pour Jésus. Tu ne peux vivre que pleinement, totalement, passionnément pour Jésus. Et je pense que c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Le jubilé est une chose sacrée parce qu'il annonce la liberté. Le message de l'Évangile est une chose sacrée parce que nous annonçons la liberté. À nous qui avons déjà connu la liberté, à nous qui avons été pardonnés de nos fautes et qui avons été graciés de notre condamnation éternelle, Dieu nous accorde la possibilité de faire en sorte que d'autres condamnés soient libérés. Est-ce que tu peux te taire à partir de ce moment? Est-ce que tu peux te taire à partir d'aujourd'hui? Si tu t'es tu jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ces paroles que je te prononce ce matin, ces paroles que je partage avec toi ce matin, j'espère que ça aura le même impact sur toi que ça l'a sur ma propre vie actuellement. Je ne peux pas me taire parce que je sais ce que Jésus a fait pour moi. Alors on va prier. Seigneur, je ne veux rien rajouter à ce qui a été dit ce matin. Je prie simplement, Seigneur, que tu inondes cette parole, que tu arroses cette parole par l'onction de ton esprit et que tu permettes, Seigneur, qu'elle prenne une place profondément ancrée dans le cœur, dans la pensée, dans l'âme, dans l'esprit de mon frère et de ma sœur. Afin, Seigneur, qu'arrosée par ton esprit et par ton onction, elle puisse croître et porter des fruits de repentance, des fruits de grâce, des fruits de réconciliation, des fruits de salut à travers la vie, à travers les gestes, à travers les actions et à travers les paroles de ma sœur et de mon frère. Bénis-les alors qu'ils servent devant toi. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors voilà ce que j'avais pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Simplement saluer quelques personnes et vous rappeler, on est lundi. Donc aujourd'hui, on a le cours biblique avec le pasteur André ce soir à 19h, toujours sur le livre des Actes. On espère que vous serez nombreux ce soir. Laissez-moi juste remonter un peu, voir qui s'est connecté depuis tout à l'heure. Je remonte. Alors, bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour Pamela. Bonjour à Denise de Laval. Bonjour à Argelia. Bonjour à Diana, bonjour à Juan Alberto, bonjour à Maggie, transmettez nos salutations aussi à Eduardo, bonjour à Babette, il faut saluer Andreas de notre part, bonjour Tante Luce, God bless you, bonsoir, bonjour à Rosani, à Jean-Gilbert, bonjour à Ramon, à Evelyne, d'autres. Hermano Pastor Francisco Cinco, que Dios le bendiga. Un placer de tenerle con nosotros esta mañana. Que Dios le bendiga. C'est le pasteur responsable de l'église au Nicaragua. Il est président de l'association de pasteurs au Nicaragua. Yo estoy diciendo que ustedes están el presidente de la asociación de iglesia que tenemos en Nicaragua. Oremos por ustedes y por usted y su familia y su iglesia. Dios le bendiga, mi hermano pastor. Bonjour Daniel. Alors je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Moi je file à l'hôpital, un autre rendez-vous aujourd'hui. Rendez-vous ce soir, 19h avec le pasteur André. On espère que vous serez nombreux. Puis, laissez la parole de ce matin vous parler. Honnêtement, je pense que Dieu a parlé à plusieurs personnes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.